suis Fanny Frazier, bénévole à Loire-et-Cher Nature, association de protection de la nature départementale. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec un animal emblème de notre fleuve la Loire, le castor européen. Pour mieux le connaître, je reçois Jean-Pierre Jolivet et Jean Pinsac. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes bénévole à Loire-et-Cher Nature. Pouvez-vous tout d'abord nous décrire cet animal finalement peu connu, le castor européen ?
Oui, bonjour Fanny. Eh bien, le castor, pour commencer, c'est un rongeur. C'est même le plus gros rongeur d'Europe. C'est un animal qui, adulte, peut faire une vingtaine de kilos. D'une façon plus exceptionnelle, on en trouve même qui frôle les 30 kilos. Pour se donner un ordre de grandeur, c'est le poids d'un chevreuil. Donc, c'est une grosse bête, le castor. C'est un animal qui est aquatique, qui est très adapté à la vie aquatique. Par exemple, il a des palmes aux pattes arrière qui lui permettent de nager et de se propulser. La queue plate du castor est bien connue, c'est pour lui un gouvernail de profondeur. Et puis il a un crâne qui est très très aplati, ce qui fait que lorsqu'il nage en surface de l'eau, il y a une longueur très très petite de son corps qui émerge, mais dans laquelle se trouvent à la fois les yeux et les oreilles qui lui permettent de bien contrôler tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, en longueur, il fait bien allongé, il fait un mètre de long à peu près, hein, c'est l'ordre de grandeur. Voilà, il est adapté aussi à son alimentation, c'est un végétarien strict. Il est capable d'abattre des arbres, hein, on le sait bien, avec l'éléphant, c'est même le seul animal de la planète capable de faire ce genre de prouesse-là. Il a donc des dents très développées, il a aussi des pattes antérieures qui sont particulièrement bien adapté pour manipuler les branchettes qu'il écorce, puisqu'il mange les feuilles, mais il mange l'écorce, il mange pas le bois, hein, il mange l'écorce. Et il y a des pattes antérieures qui sont de véritables mains, avec un des doigts qui fait opposition et qui lui permet de manipuler ce qu'il est en train de manger.
Pouvez-vous nous raconter l'histoire rapidement de sa disparition ?
Alors, à l'origine, le castor, je veux dire, au Moyen-Âge, par exemple, le castor était un animal qui était très largement répandu sur l'ensemble du continent européen et asiatique. À partir du moment où il y avait un cours d'eau et puis quelques arbres autour, il y avait des castors. Voilà, la toponymie locale, là, ici, en Loire-et-Cher, en atteste, d'ailleurs, puisque Beuvron, par exemple, veut dire « rivière à castor ». Le bièvre, c'est directement l'ancien mot français pour désigner l'animal. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est un animal qui a eu des soucis, je dirais, avec l'espèce humaine, qui l'a pourchassé pour diverses raisons. D'une part pour la fourrure, parce qu'il a une belle fourrure qui faisait de jolis manteaux. Aussi pour la viande, même si c'est pas une viande bien réputée, les temps ont pas toujours été faciles et un castor, ça pouvait être intéressant. C'était aussi une viande de carême à un moment donné, puisque les écailles qui sont imprimées sur le cuir de la queue rappelant les poissons, on avait décrété que la viande de castor, finalement, pouvait être assimilée à une viande de carême. Et puis, le castoreum, qui est une substance qu'il sécrète pour marquer son territoire, comme font beaucoup d'animaux, eh bien, est issu de grosses glandes qu'il a à l'intérieur du corps, qui étaient prélevées, séchées. Et on se servait de cette substance-là, en parfumerie notamment, comme fixateur de parfum. En pharmacie aussi, un petit peu. Ça n'a pas été très très bon pour lui. Et puis il y avait aussi, jusqu'à la fin du 19e siècle, des primes qui étaient mises, par exemple par la Compagnie Nationale du Rhône, des primes qui existaient pour la destruction des castors, parce qu'on estimait qu'ils faisaient des dégâts sur la végétation ligneuse, par exemple. Voilà. Et tout cela fait qu'au début du 20e siècle, l'espèce castor d'Europe ne subsistait plus que dans quelques points isolés du continent, un petit peu en Russie, un petit peu en Pologne, un petit peu dans le sud de la Norvège, et puis en France. Dans la basse vallée du Rhône, où il existait là-bas sans doute quelques dizaines, pas plus d'individus, mais pas plus. Et dès 1905, fait assez exceptionnel pour l'époque, des mesures de protection réglementaire ont été prises en sa faveur, parce qu'on voyait bien qu'on arrivait à la toute fin de l'espèce. Et c'est à partir de cette époque-là que progressivement, petit à petit, il a reconquis ses territoires sur l'ensemble du bassin du Rhône.
Pourquoi et comment a-t-il été réintroduit ?
Alors pourquoi ? Ça s'est passé dans les années 70, entre 74 et 76, à l'initiative d'une association de protection de la nature, donc qui est celle que nous représentons aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait Société d'études et de protection de la nature en Loire-et-Cher. Pourquoi ? C'était une volonté du mouvement associatif de redonner une place à ce moment-là aux espèces disparues dans leur milieu naturel, pour que les milieux naturels en question puissent retrouver un fonctionnement plus normal et plus naturel. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il y avait une volonté scientifique, on peut l'appeler comme ça, de réintroduire cet animal-là. Et puis il y avait aussi une volonté pédagogique, parce que c'est un animal qui est quand même spectaculaire par les signes qu'il laisse sur les rives. Et c'est un bon support pour un certain nombre d'activités pédagogiques pour les jeunes, pour les scolaires, mais aussi pour les plus grands. Et le nombre d'animations qui ont été faites depuis lors sur ce thème-là ne se compte plus. Il y avait aussi l'aspect culturel, hein, le fait que l'animal, après avoir disparu des territoires, ne disparaisse pas dans les esprits aussi. Voilà. Donc ce côté-là. Et puis on avait mis en avant aussi ce qu'on appelait l'aspect humain, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'on soit content, on soit heureux, nous humains, d'avoir une nature qui fonctionne un petit peu plus et d'avoir un animal tel que le castor dans nos rivières. Donc c'est une opération qui a été faite par l'association SEPN avec l'ensemble des autorisations administratives qui étaient indispensables à l'époque. Donc c'était un accord du Conseil général de l'époque et puis des services administratifs de l'agriculture et de l'équipement. Et vous me demandiez comment ça s'est fait. Eh bien, tout simplement, sous l'égide d'un scientifique qui s'appelait Bernard Richard, qui était le spécialiste français à l'époque de l'espèce, et qui était chargé de piéger des castors dans la vallée du Rhône, là où ils étaient, où ils posaient quelques problèmes. Nous allions, une petite équipe de bénévoles, piéger quelques animaux et nous les réintroduisions, donc, sur le cours de la Loire. Voilà, ça s'est fait sur 3 années, 74 à 76, et ça a concerné 12 animaux au total.
Du lundi au vendredi à 10h, RCF est à votre service. Santé, vie de famille, nouvelles technologies, éducation ou jardinage, journalistes et spécialistes vous éclairent et vous aident sur tous les sujets du quotidien. À votre service, c'est tous les jours de la semaine, de 10h à 11h, sur RCF.
Bonjour la Terre, sur RCF. Bonjour la Terre. Bonjour la Terre. Bonjour la Terre.
Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Jean-Pierre Jolivet, bénévole à Loire-et-Cher Nature, qui nous a retracé l'histoire de la réintroduction du castor en Val-de-Loire. Mais où en est la population actuellement ? Je pose la question à Jean Pinsac. Bonjour Jean.
Bonjour Fanny.
Alors le castor se porte-t-il bien ?
Oui, et le castor se porte plutôt bien. Depuis sa réintroduction sur la Loire au milieu des années 70, très rapidement, un premier couple s'est constitué pour se fixer à proximité du lieu de son lâcher, au niveau des piles de l'ancien viaduc de chemin de fer sur la commune de La Chaussée. Une famille se compose d'un couple, des jeunes de l'année précédente et des jeunes de l'année en cours. Rarement plus de 3 jeunes par portée, pas plus d'une portée par an. Les naissances ont lieu en général de la fin avril au début juin. On considère qu'une famille se compose de 5 à 7 individus et son territoire sur la Loire, hein, s'étend sur 2 à 3 kilomètres de rive environ.
À partir du noyau initial, quel est le mode d'expansion du castor ?
À l'automne, les jeunes castors âgés de 1 an et demi sont brutalement éjectés du gîte familial par les parents. Ils se mettent alors à la recherche d'un nouveau territoire libre et d'un ou d'une partenaire pour fonder une nouvelle famille. La maturité sexuelle intervenant à partir de l'âge de 2 ans, entre les naissances locales et les réintroductions des castors du Rhône, dès le début des années 80, nous avions déjà plusieurs familles installées dans le département. En région centre, plus généralement, la Loire a été rapidement colonisée sur les 3 départements qu'elle traverse. Dès les années 90, c'est-à-dire à l'espace de 20-25 ans. Quoi. Depuis, le castor a étendu son territoire à l'aval jusqu'à l'estuaire et en amont jusqu'au barrage de Villerest, de Nossac et de Grandjean qui font barrage à son expansion territoriale, ce qui fait environ 600 à 700 kilomètres.
Peut-on évaluer ses effectifs sur la Loire ?
Du fait de son comportement territorial, la Loire atteint son maximum en sites d'implantation possibles. Tous les territoires disponibles sont aujourd'hui occupés. Si l'on peut comptabiliser le nombre de familles sur un linéaire défini, il n'en est pas de même pour les individus qui sont célibataires ou immatures et qui errent d'un site à l'autre. On estime que cette population est à peu près équivalente à celle constituée par la population des familles. Actuellement, on considère que l'effectif de castors est stabilisé sur la Loire.
Peut-on donner une estimation chiffrée ?
Aujourd'hui, l'augmentation de la population de castors n'est plus possible que sur les affluents, les sous-affluents ou même les ruisseaux du bassin de la Loire, où les conditions d'implantation sont beaucoup moins favorables, même s'ils y sont très bien représentés. Une estimation chiffrée est quasiment impossible à faire et sera toujours sujette à discussion, d'autant plus que l'espèce ne fait plus l'objet d'inventaire de la part des naturalistes, et ce depuis environ une quinzaine d'années, tout au moins sur le Val-de-Loire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se compte actuellement par plusieurs milliers d'individus.
Cette espèce fait-elle l'objet d'un suivi de votre part ?
Actuellement, seul l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui d'ailleurs cette année, depuis le 1er janvier, a intégré l'Agence Française pour la Biodiversité, donc seul l'ONCFS a une cellule de suivi des espèces loutres et castors sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne.
Peut-elle occasionner des problèmes ?
En général, il est bien perçu, tant qu'il n'impacte pas les activités humaines se situant à proximité immédiate d'un cours d'eau où il est présent. Sur la Loire, il n'a pas d'impact négatif, il n'a que des impacts positifs à la limite. Le castor, d'ailleurs, est un animal qui jouit d'une protection intégrale sur l'ensemble du territoire français depuis 1964, aussi bien pour son site de reproduction que pour l'espèce elle-même. Il ne restait plus qu'une petite population sur la basse vallée du Rhône, comme l'a rappelé Jean-Pierre, et qui était heureusement protégée depuis 1905. C'est ce noyau résiduel qui a permis la réintroduction du castor dans diverses régions de France et en Suisse.
Quel est son avenir ?
Son avenir semble actuellement assuré, même si les causes de mortalité restent multiples. L'homme est souvent la première cause, directe ou indirecte, volontaire ou non, de la mortalité du castor. Peuvent être en cause les collisions avec un véhicule, mais plus discrètement, la chasse, l'empoisonnement, le piégeage, le braconnage, l'asphyxie dans un engin de pêche. Enfin, dans le domaine public fluvial, et tant qu'il est protégé par la loi, il ne risque pas grand-chose. C'est quand il quitte le fleuve à la recherche d'un site à conquérir qu'il prend le plus de risques. Il y a aussi une mortalité importante dans les zones de forte densité, due au combat pour la conquête d'un territoire occupé, et qui peuvent se terminer par la mort d'un ou même des deux participants. Les autres prédateurs historiques du castor sont l'ours, le lynx, le loup. Dans notre région, ça ne devrait pas poser de problème dans l'immédiat. Les conditions climatiques et les crues sont aussi responsables d'un certain taux de mortalité. Mais enfin, c'est sa forte capacité d'adaptation qui est sa principale assurance de survie.
Où et quand peut-on le voir ?
Eh bien, Loire-et-Cher Nature fait plusieurs sorties nature dans l'année, fin juin et début juillet et en septembre. Le castor ayant des activités nocturnes, il ne commence à sortir de son terrier que vers 20h-21h. C'est à partir de cette heure-là qu'on a le plus de chances de le voir. Et en cette période de l'année, il fait encore jour.
Comment se renseigner sur Loire-et-Cher Nature et ses animations ?
Alors, sur le castor, nous avons deux sorties de programmées le 26 juin et le 3 juillet, et plus particulièrement sur notre site web, où il y a toutes les informations sont disponibles sur toutes les sorties de tout type, donc c'est www.loireetchernature.org. Vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone au 07 83 78 77 80.
Merci messieurs Jolivet et Pinsac, vous nous avez passionnés sur le castor et sur son histoire. Nous vous donnons rendez-vous le 27 mars pour découvrir les batraciens et les reptiles du Loir-et-Cher.
Bonsoir.
Bonsoir.